Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Un podcast de France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Lula est une femme d'une cinquantaine d'années. Son prénom s'écrit comme le président du Brésil, mais ça se prononce Lula et il vient d'un livre de Resvani, le fameux parolier. Lula, donc, est prof de théâtre et comédienne à 16 heures. C'est une femme discrète, réservée, qui ne la ramène pas. Pas une comédienne exubérante comme on se l'imagine parfois. Elle est née en France, mais vit à Bruxelles depuis 30 ans, au dernier étage d'une grande maison divisée en appartements dans le quartier de Anderlecht, près de la gare du Midi. L'histoire qu'elle nous raconte aujourd'hui commence par durer 2 ans dans cet appartement. Puis elle va se prolonger encore 4 années avec Awad, un jeune Soudanais de 25 ans qui a une idée en tête dont il ne va pas démordre. Lui, il vient d'une famille d'agriculteurs dans le nord du Soudan. Comme tant d'autres, il a pris le chemin des migrants par la Libye et son désert terrifiant, puis il a traversé la Méditerranée sur un canot bondé avant d'être sauvé par SOS Méditerranée et de débarquer en Sicile. Arrivé à Bruxelles, pendant 4 ans, il va travailler, économiser, suer et s'acharner sur ce projet magnifique que nous vous racontons aujourd'hui. Et c'est Fabienne Lomonier qui signe cette histoire intitulée « Awad et la moissonneuse ».
En septembre 2017, il y avait beaucoup de Soudanais et d'Érythréens qui passaient par le parc Maximilien à Bruxelles, parce que la jungle de Calais ayant été démantelée, c'était un nouveau point de passage pour trouver des moyens de partir en Angleterre. J'ai vu beaucoup d'articles concernant les harcèlements policiers au parc Maximilien, c'est-à-dire qu'ils se faisaient réveiller la nuit, piquer les sacs de couchage, leurs affaires. Et donc, il y avait la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés. C'était un ensemble de bénévoles. Ils ont fait un appel sur Facebook à la population pour inciter les gens à accueillir chez eux des migrants. Moi, je me sentais à ce moment-là complètement révoltée par la situation. Énormément de gens se retrouvaient à la rue. Ils arrivaient au terme d'un voyage en passant par l'Égypte, la Libye, le passage par la Méditerranée, la remontée de l'Italie, la traversée de la France. Et du coup, entre le moment où j'ai vu l'appel et le moment où je me suis décidée d'accueillir, il s'est passé quelques semaines parce que j'avais besoin de réfléchir. Je trouvais plein d'excuses pour ne pas le faire, en fait. Donc j'ai appelé une des personnes de la plateforme citoyenne pour lui demander des renseignements. J'en ai parlé à mon fils, qui était hyper angoissé à l'idée qu'on accueille des gens à la maison. Et il me dit, mais en fait, ils ont vécu des choses tellement difficiles, tellement compliquées, que peut-être ils vont avoir envie de se venger. Et alors je lui ai dit, écoute, si je sens qu'il y a le moindre problème, évidemment qu'on arrête tout de suite. Mais on essaye. Un rendez-vous le soir au parc, des bénévoles qui encadraient des répartitions dans des familles qui acceptaient d'accueillir chez eux ces personnes le temps d'une nuit. Et là, il y avait des hommes qui attendaient. Je me suis présentée et puis un des bénévoles m'a dit « Voilà, tu peux partir avec ces 2 personnes qui étaient 2 Érythréens et qui étaient aussi effectivement super angoissés. On est repartis ensemble à pied. » On a pris le tram, on est rentré à la maison, eux parlaient pas anglais, enfin très très peu, pas un mot de français. On communiquait avec des gestes et puis on est des traducteurs automatiques. Et puis petit à petit je me suis dit, je pourrais en mettre aussi dans la chambre d'amis à côté. Puis mes voisins m'ont proposé de prendre les chambres de bonne et donc j'ai commencé. Et puis en fait il y en a eu 3 et puis 4 et puis 5 et puis 6 et puis 7 et puis 8. Et puis à partir de 8, on s'est dit, voilà, on arrête. On ne pouvait pas écarter les murs, puis il fallait qu'il y ait aussi un confort pour eux aussi. Que ça ne soit pas non plus un truc infernal pour tout le monde. d'une famille monoparentale, on est passé à une vie avec des repas à 12 à table. Et donc, ça a commencé à devenir une petite communauté. Et c'était toute une ruche, cette cuisine, entre Youssef qui faisait du pain, Assia qui faisait des injera. C'était des repas délicieux et c'était des moments vraiment de partage où mon fils du coup invitait ses copains qui la plupart étaient enfants uniques aussi et trouvaient là ils avaient plein, c'était comme des grands frères en fait, ils étaient hyper autonomes et puis extrêmement discrets, extrêmement respectueux. Il y avait aussi toute l'intendance, c'est une prise en charge, moi c'était multiplié par 8 la consommation en eau. Et l'alimentaire, pareil, il y a un moment, j'ai les revenus que j'ai, et je pouvais pas. Il y a des choses que je pouvais pas faire, mais j'ai été énormément aidée par des citoyens, des citoyennes. Et donc voilà, les moments des départs, c'était aussi. Ils repassaient leurs affaires aussi, voir à quel point ils étaient soigneux, ils partaient toujours impeccables, parfumés, la chemise repassée. Certains allaient regagner des aires d'autoroute, d'autres allaient vers Calais, d'autres allaient sur des parkings. Tous, c'était leur but, leur Eldorado étant l'Angleterre. Il n'y en avait aucun qui avait dans l'idée de demander l'asile en Belgique. Ça a bouleversé quand même mon quotidien, parce qu'il y avait plein de choses qui me semblaient totalement superficielles et totalement dérisoires, auxquelles j'arrivais plus à croire, j'arrivais plus à passer du temps dans certaines circonstances, parce que je m'ennuyais, ou j'avais l'impression que ça servait à rien. Genre certaines soirées, genre certains spectacles, ou des moments même avec des amis. Certains amis, ça fait un tri, quoi. Au printemps 2019, on apprend que la maison est vendue. Donc la maison où j'ai accueilli de septembre 2017 à août 2019. Et du coup, on a 6 mois pour partir et pour trouver autre chose. C'était le bon moment, en fait, pour arrêter l'accueil. Ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'avais plus la place ni physique ni l'espace mental pour continuer à accueillir. Au moment où je me préparais au déménagement, il y en a un qui a demandé l'asile en France et qui l'a eu en France. Et tous les autres voulaient aller en Angleterre et sont partis en Angleterre et ont fini par réussir à avoir l'asile en Angleterre. Et il y en a un qui a décidé de demander l'asile en Belgique.
Je m'appelle Awad, j'ai 25 ans, je suis soudanais. Lula, c'est... Pour moi, c'est... C'est ma famille. En fait, Lula, c'est tout pour moi. Il m'a donné tout. J'ai resté... D'abord, c'est un jour. Et j'ai senti... Lula, c'est un quelqu'un bien. Pour ça, j'ai changé... Rester en Belgique. Son père, sa maman, son fils, sa soeur. C'est comme ma famille maintenant, en fait. Pour ça, je suis bien ici. Grâce à elle.
Voilà, on s'est très fort attachés l'un à l'autre. C'est vraiment comme un fils, un frère, un ami. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais développé une très forte amitié. Et je me suis dit, en fait, s'il y en a un qui doit rester à la maison, que je peux encore aider, c'est Awad. Donc, au départ, on communiquait vraiment à travers des traducteurs automatiques ou à travers des dessins ou à travers des baragouinages anglais, franco, anglais, arabe. Et donc, il a fait des progrès en français.
J'ai commencé à apprendre la langue. Grâce à Lola, j'ai commencé à travailler avant que je parle le français. Le travail, il m'a aidé pour parler un peu mieux le français.
Vous aimez la musique.
La musique.
quoi j'ai envie de travailler, travaille bien et gagne de l'argent, comme ça je sais comment vivre normal et construire ma vie sans besoin de quelqu'un pour aider.
J'ai accompagné Awad dans sa demande d'asile, parce que quand il n'y a pas encore une grande maîtrise de la langue, ça demande d'être accompagné. Tout est compliqué. Écrire des lettres, ou faire son CV, ou... Parallèlement à sa demande d'asile, Awad a trouvé un travail à la ferme pendant un an, et tout ça est légal. Quand tu es en demande d'asile, tu as un permis de travail illimité, tant que ton dossier n'a pas été traité. Donc il a un salaire, et puis son contrat s'est achevé, et du coup il a cherché d'autres boulots, et donc je trouvais admirable son courage à chercher du travail et à en trouver en fait. Enfin, à chaque fois que quelque chose s'achevait, il a réussi à rebondir. Je sais qu'il envoie de l'argent régulièrement à sa famille, mais qu'à un moment, il décide de mettre de l'argent de côté parce qu'il a un projet. Et il me parle de ce projet, il me dit, voilà, en achetant un tracteur, je vais, parce que sa famille est une famille d'agriculteurs, éleveurs, et donc, en achetant un tracteur, il se dit que ça va être un outil qui va leur permettre plus de rendement et aussi de pouvoir louer cette machine. Au lieu d'envoyer de l'argent régulièrement, cette machine peut aider à générer de l'argent et à générer voilà, une autre économie. Voilà, il habite à la maison. C'est vrai que le fait d'habiter ici, ça lui permet de faire des économies aussi. Il n'a pas un loyer, mais il participe aux charges. Tout le reste, il met de côté. Tous les boulots qu'il a fait, il a économisé mois par mois. Et en fait, il a réussi à réunir la somme nécessaire. Et donc, il cherche, il regarde des petites annonces. Moi, je pense qu'il rêve complètement, qu'il n'a pas conscience de la difficulté que ça va être. Parce qu'acheter la machine, c'est une chose, mais après, il faut l'acheminer là-bas. Mais bon, voilà, je le laisse rêver. Et donc, il y a plein de gens qui me disaient « Mais pourquoi il n'envoie pas l'argent qu'il s'achète une machine sur place ?» Mais en fait, ça coûte beaucoup plus cher là-bas. Le temps passe, et puis au bout d'un moment, il commence à regarder des moissonneuses-batteuses.
Un jour, j'ai trouvé un site de Bernard. Il voulait vendre sa moissonneuse. C'est Lola qui l'a téléphoné. Et il a pris un rendez-vous. Et on était chez lui pour voir le moissonneuse et parler pour le prix.
J'appelle la personne. Je tombe sur quelqu'un de très bourru, qui m'a déjà qui entend une voix de femme. Et puis c'est vrai que j'y connais rien, donc je lui pose quelques questions, mais enfin, il pense que c'est une blague en fait. Il me dit qu'il y a quelqu'un d'intéressé, qu'il faut qu'on fasse une proposition très concrète et qu'il n'a pas de temps à perdre. Le gars veut pas du tout baisser le prix de la machine. Je raccroche, je traduis à Awad, qui regarde d'autres annonces. Et puis arrive le printemps, et il continue à regarder, à faire regarder des petites annonces, etc. Et voit que cette moissonneuse est toujours à vendre. Donc il me demande de rappeler. Alors là, je rappelle cette personne, qui se rappelle que je l'ai appelée quelques mois auparavant. Et puis je lui explique que j'héberge un demandeur d'asile, que Awad a mis de l'argent de côté pour acheter cette moissonneuse-batteuse pour l'acheminer vers le Soudan pour sa famille. Il est un peu estomaqué de tout ça. Et puis, en fait, il commence à s'excuser d'avoir été un petit peu expéditif la fois d'avant, mais qu'il pensait qu'on n'était pas sérieux et que quelqu'un à l'époque était intéressé et que là, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé, un Polonais qui vient acheter un tracteur, qui veut aussi la moissonneuse. Donc, il me dit, voilà, si vous voulez venir la voir, il faut venir la voir bientôt. Parce que lui, il va venir prendre le tracteur, il va prendre aussi la moissonneuse. Donc, si vous êtes intéressé, il faut venir la voir vite. On y va. On arrive à la ferme, fin février, début mars, quelque chose comme ça. Donc il fait froid, il y a des chiens qui sont là, Bernard et son fils qui nous accueillent.
Bernard, il était gentil, personne bien. En fait, c'est un gros moissonneuse, il fonctionne bien, il est bien entretenu. On a fait un tour, on a cherché le moteur et tout la tour de la moissonneuse.
Bon, apparemment, c'est une très bonne marque, c'est une machine très costaud. On demande de la démarrer, mais la batterie est à plat, alors ils la font démarrer avec un générateur. Elle démarre au quart de tour après. Il nous fait aussi visiter la ferme. Il nous montre ses vaches. Il voit Awad qui donne de la paille aux vaches. Et tout de suite, il comprend qu'il connaît les bêtes. Il est touché. Et il est extrêmement touché de voir voilà, quelqu'un qui travaille et qui se sacrifie pour ses parents, quoi. Awad est convaincu que c'est une bonne affaire. Donc on dit un oui. Awad est intéressé par la machine, mais maintenant il faut qu'on se renseigne pour le voyage, pour savoir combien ça va coûter, qu'on fasse faire des devis et qu'on voit si c'est faisable. Le propriétaire de la moissonneuse-batteuse, il se dit « Ok, je vais attendre ». Il a envie de que cette moissonneuse parte en Afrique pour aider Awad et sa famille. Mais il prend un risque parce qu'il ne sait absolument pas si ça va pouvoir se conclure ou pas. Tout ça, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Au moment où on a regardé la première fois l'annonce, elle était donc à 20 000. Et comme elle n'avait pas été vendue, ben en fait, elle était descendue à 17 000. Mais il ne voulait pas descendre plus. Donc Awad avait de quoi acheter la moissonneuse, mais il avait 3 ou 4 000 euros encore pour le transport. Et Awad pensait à ce moment-là que le transport allait être dans les 5 000 euros. Et là, je me disais, mais en fait, il rêve. Ça, c'est pas possible que ça coûte ce prix-là. Un tracteur, ça peut rentrer dans un conteneur. Mais une moissonneuse, c'est hors gabarit et donc c'est du sur-mesure. En fait, on trouve des sociétés qui proposent des devis port d'Anvers à Port-Soudan, mais on n'arrive pas encore à trouver un transporteur ou à organiser depuis la ferme jusqu'au port d'Anvers, parce qu'il faut aussi un transport exceptionnel. Et puis lui n'a de toute façon encore pas la somme. Pendant ce temps-là, Bernard patiente et dit « Bah voilà, en fait, le temps des moissons est arrivé, donc je vais réutiliser la machine pour la prochaine moisson. Et puis elle sera disponible après l'été, de nouveau. » À l'automne, voilà, nous, on est toujours à chercher un transporteur. Mais entre-temps, les prix ont énormément augmenté.
C'était plus cher à cause du problème de la mer Rouge. Chez moi, dans ma région, c'est le bazar, plus la guerre.
Et puis je tombe sur un transporteur qui me dit qu'il faut aussi faire très attention, qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques aussi, qu'il faut vraiment... Donc c'est vraiment un pari en fait. À ce moment-là, mon compagnon nous met en contact avec un transporteur néerlandophone qui nous fait un devis. Donc il y a le prix du transport entre la ferme et le port d'Anvers. Ça c'est un transporteur en convoi exceptionnel. Il faut aussi réserver une place dans le port d'Anvers et puis une place sur le bateau qui va passer par Jeddah. C'est un transporteur saoudien. Et puis ensuite, Jeddah, Port Soudan. Et puis il y a le dédouanement. Et ça, on ne sait pas non plus combien ça va coûter exactement. Et du coup, c'est parti. Octobre 2023, on est arrivé à la ferme donc par un temps épouvantable et elle était là dehors en train d'attendre d'être emmenée loin. Et Bernard, il avait nettoyé la machine, il avait préparé les papiers, tout était prêt pour que tout se passe au mieux. Il avait mis tous les accessoires, il l'avait fait réviser, il voulait que ça soit vraiment en parfait état pour qu'elle parte. Et il nous a invité à manger un pot-au-feu avec lui. Et la moissonneuse est partie, dans le port d'Anvers. Première étape. Deuxième étape, attendre qu'elle soit chargée sur le bateau et qu'elle parte. Et là, j'étais en échange constant avec la société de transport, me donnait des nouvelles. Lui aussi avait peur que ça n'arrive pas, parce qu'il y a toujours un risque que la machine disparaisse en route. Quelques jours après, genre une semaine, 10 jours après, elle a été chargée sur le bateau. Et là, on apprend que ça y est, elle quitte le port. Et c'était aux environs de la Saint-Nicolas, patron des bateliers. Et elle se retrouve en pleine mer. Et là, c'était un jour de tempête. Et on pouvait suivre le bâtiment avec une application. Jour par jour, on suivait le trajet. On a juste le suivi GPS. Et à un moment, il était calé. Il est resté à un moment immobilisé au nord de la Libye pendant quelques jours. Et oui, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça redémarre, et après, elle est au nord de, aux alentours de Port Saïd. Et là, pareil, il se passe quelques jours avant qu'il pénètre dans le canal de Suez. Ils attendent le feu vert pour passer. Ensuite, ils passent le canal de Suez et ils arrivent à Jeddah. Alors Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. L'armateur est saoudien. Et là, la moissonneuse est déchargée pour être chargée sur un autre bateau qui va aller à Port Soudan. Et à partir de là, le transporteur qui nous a fait tout le contrat dit à partir de Jeddah, moi j'ai plus prise. Il faut que ça soit Awad qui prenne le relais. Et donc Awad prend le relais. La machine reste quand même calée 15 bons jours à Jeddah. On n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, on apprend que ça y est, ça, c'est reparti. Cette machine va au Soudan, et cette machine qu'on a vue toucher, elle, matériellement, elle va arriver, elle va être dans les mains de sa famille, quoi. Et c'est dingue. Et il n'avait toujours pas prévenu sa famille.
En fait, les moissonneuses, c'est mon projet. Je voulais faire comme un secret, c'est comme un cadeau. Je vois les moissonneuses et arrive chez mes parents.
Et la moissonneuse arrive à Port Soudan. Moi, j'avais très, très peur qu'il y ait allez, des bakchiches et des trucs. Après, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'il croyait. Donc, lui pensait avoir encore des économies pour... voilà, mais sauf que ça lui a vidé son compte en banque, quoi. Et là, on a reçu une vidéo avec... où on voit la moissonneuse... fonctionner et sortir du port. Et du coup, un immense soulagement et de la joie de savoir qu'elle est arrivée, parce que vraiment, jusqu'à la fin, c'était un stress et un doute.
C'est le jour qu'il est arrivé à Port Soudan, avec les douanes.
C'est génial, c'est la machine, la moissonneuse sur la terre soudanaise. Donc ça, c'est le moment où elle sort du port.
Dernière étape pour sortir le moissonneuse Porte Soudan. Il a dit tout, tout va bien.
Et puis ce qui est magnifique, je trouve, c'est de la voir sur cette terre toute sèche, craquelée. Après la terre toute boueuse de la ferme en Wallonie.
Quand elle arrivait, c'était comme une fête pour moi. C'est un jour spécial. J'ai fêté ici. On a préparé manger, on a invité des gens, on a fêté à la maison. C'était à la fin de période difficile. Après traverser le pire, mais c'était dingue, c'était fou ça. Avant, je pensais à ma famille plus que ma famille, et maintenant je vais penser plus à moi. Moi, je suis venu illégalement, mais le moissonneuse, elle est partie légalement. Ça me rend fier.
Et donc son père est fou de joie, il n'en revient pas, il n'y croit pas. Il organise pour venir chercher la moissonneuse. Mais à ce moment-là, c'est une situation très 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 chaude au Soudan. Il y avait des gros problèmes à Khartoum, mais en fait ça se déplace à 30 km du village d'Awad. Et donc c'est pas possible de faire acheminer la machine par voie terrestre à ce moment-là. Donc il décide d'aller mettre la moissonneuse chez un cousin qui habite pas trop loin de Port Soudan. Et la mettre à l'abri le temps que le conflit se calme. Et apparemment, bah pour le moment, c'est très problématique parce que même les connexions Internet ont été interrompues. Là, ça fait 15 jours qu'il n'arrive plus à rentrer en contact avec sa famille.
Aujourd'hui, pour le moissonneuse, c'est la saison bientôt en fait, au Soudan. Mais le problème, j'ai travaillé 4 ans pour avoir une moissonneuse et maintenant, il ne peut pas travailler parce qu'il y a de la guerre. C'est très frustrant. Mais j'espère que la guerre ça va terminer, on va arrêter demain, comme ça tout le monde va vivre normal, comme ça le moissonneuse va travailler, va récolter le blé, et je serai très heureux. Thank you.
C'était Awad et la moissonneuse, un reportage de Fabienne Lomonier réalisé par Anne-Laure Chanel. À l'heure où je vous parle, sachez que la moissonneuse est toujours chez le cousin d'Awad, mais ils sont en train de la nettoyer et aujourd'hui même, mercredi 17 avril, elle fera sa première moisson dans le village du cousin. Merci à Loula, évidemment à Awad, à Mamadou, à Idrissa, à Hafiz, à Saïd, à Ismaël, à Mohamed Pikoz, à Youssef, au grand Adil, à Sarah Ibrahim, Saleh et à Abou Bakar. Merci bien sûr à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Nour Mohamedi, notre stagiaire. Touch you with a mother's hand. You long to kiss those red lips. When you do, it'll feel like kicking a habit. She'll tell you she'll stay.
She'll tell you she loves you.